Vous écoutez France Culture. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous commencerons avec les nouvelles révélations sur l'affaire Carlos Ghosn, accusé d'avoir dissimulé au fisc une part importante de ses confortables revenus, des révélations qui amplifient un peu plus encore la menace pesant désormais sur l'empire automobile constitué de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.
Ils et elles se disent oubliés.
Oui, les infirmiers et infirmières descendent dans la rue cet après-midi à l'appel de 16 organisations de la profession qu'ils exercent à l'hôpital, dans le privé ou en libéral. Tous sont appelés à faire grève et à manifester partout en France.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, le congrès des maires de France qui s'ouvre aujourd'hui à Paris en l'absence remarquée d'Emmanuel Macron.
Le chef de l'État recevra en réalité les édiles demain soir à l'Élysée. Pas certain en revanche que l'invitation au château ne suffise à apaiser le contexte de crispation entre d'un côté des maires fatigués et de l'autre un exécutif irrité par l'absence de volonté de dialogue de certains élus.
Alors qu'un projet d'accord sur le Brexit semblait en passe d'être finalisé, nouveau contentieux ce matin.
Oui, quand les alliés nord-irlandais de Theresa May annonce qu'ils voteront contre le texte, le gouvernement espagnol précise à son tour qu'en l'état, il se prononcera contre le projet d'accord. Et puis un nouvel épisode dans la saga de l'Aquarius. La justice italienne a demandé le placement sous séquestre du navire humanitaire actuellement bloqué à Marseille. Les enquêteurs soupçonnent le navire d'avoir fait passer un total de 24 tonnes de déchets potentiellement toxiques pour des déchets classique. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
L'art peut-il contribuer à la prise de conscience de l'urgence écologique? Et puis que peuvent les artistes pour lutter contre le désastre environnemental? On en parlera avec nos deux invités, l'historien d'art Paul Ardenne et le philosophe Bernard Stiegler. Ils seront avec nous à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. Depuis son arrestation hier à la sortie de son jet privé jusqu'à l'annonce, quelques heures plus tard à peine, d'une perte vertigineuse d'1 milliard d'euros de capitalisation boursière, la garde à vue de Carlos Ghosn ressemble décidément à s'y méprendre à une caricature de tout ce que les pourfendeurs de la morale du capital exècrent de ce monde d'en haut. À cela, on pourrait encore ajouter les polémiques sur la gouvernance inépuisable, pas moins de 20 années de règne à la tête d'un empire constitué aujourd'hui de l'alliance Nissan-Renault-Mitsubishi. Celle sur la cupidité présumée des patrons et en l'occurrence sa double rémunération de PDG, l'exonération de responsabilité des dirigeants s'agissant par exemple des révélations sur les contrôles de qualité défaillants dans les usines Nissan l'an dernier, sans oublier la méthode Ghosn qui pour son culte de la performance lui avait valu le surnom de « cost killer », tueur de coûts. Enfin, ultime parodie parce qu'il avait sauvé le constructeur japonais de la banqueroute. Une histoire tellement miraculeuse qu'elle avait même fait l'objet d'un manga. Carlos Ghosn a longtemps été vénéré au Japon dans un pays où l'honneur est une valeur sacrée. De sorte que la chute du maître tombé en disgrâce mérite à présent une légère réécriture de l'histoire. Les précisions à Tokyo du correspondant d'RFI pour France Culture, Frédéric Charles.
Le président de Nissan, Hiroto Saikawa, eut des mots très durs contre son prédécesseur Carlos Ghosn. Il n'a pas été le seul à assurer le sauvetage de Nissan, a-t-il dit. C'est le fruit d'un groupe de personnes. Certains commentateurs à Tokyo expliquent cette réécriture de l'histoire par la volonté du PDG de Nissan de rééquilibrer l'alliance avec Renault. Nissan assure la part du lion des bénéfices du constructeur français et s'est déjà inquiété en 2015 de la montée temporaire de l'État français au capital de Renault. Selon des analystes, le PDG de Nissan se servirait de l'arrestation de Carlos Ghosn pour rejeter une alliance plus poussée avec le constructeur français. La haute administration japonaise soupçonne aussi Carlos Ghosn de vouloir absorber Nissan et Mitsubishi dans une holding en Europe. Lors d'une conférence de presse, le patron de Nissan a dû répondre à des questions sur un coup d'État. L'arrestation de Carlos Ghosn est l'aboutissement d'une enquête de plusieurs mois au sein de Nissan. Et son nouveau patron utiliserait les accusations contre Carlos Ghosn pour signaler à Renault qu'un renforcement de l'alliance doit refléter la position centrale de Nissan dans le groupe.
Alors Carlos Ghosn était la pierre angulaire donc de cette alliance automobile, une alliance aux équilibres subtils et en l'occurrence dans la mesure où l'État français détient aujourd'hui 15% du capital de Renault, le sujet apparaît particulièrement sensible notamment dans l'Hexagone. Ce matin, le ministre de l'Économie a expliqué avoir fait procéder à des vérifications avant d'en conclure qu'il n'y avait rien de particulier à signaler, pas de fraude fiscale identifiée, ce qui n'empêche pas Bruno Le Maire de se prononcer pour une gouvernance intérimaire pour Renault. On l'écoute.
Notre priorité, comme l'a rappelé le président de la République, c'est la stabilité de Renault et la stabilité de l'alliance entre Renault et Nissan. Parce que face au bouleversement technologique actuel, la voiture autonome, la voiture électrique, nous avons besoin d'un constructeur qui soit fort, solide et intégré. Ensuite, il faut une gouvernance, bien entendu. Il faut une gouvernance intérimaire. Donc, je recevrai dès ce matin l'administrateur de référence, Philippe Lagayette, les représentants de l'État au conseil d'administration de Renault, pour leur demander de mettre en place immédiatement une gouvernance intérimaire, puisqu'aujourd'hui, M. Ghosn est empêché de diriger l'entreprise. En revanche, nous n'allons pas demander le départ formel de M. Ghosn au conseil d'administration, pour une raison qui est simple. Nous n'avons pas de preuves.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire au micro ce matin de nos confrères de France Info. Alors aujourd'hui, la question de l'avenir de cette alliance automobile complexe se trouve posée. Le conseil d'administration de Renault se réunira ce soir pour décider d'un remplacement temporaire de Carlos Ghosn tant que ce dernier restera incarcéré au Japon. De son côté, Nissan a annoncé hier son intention d'évincer Carlos Ghosn de son poste de président du conseil d'administration. Enfin, Mitsubishi, troisième partenaire de cette alliance franco-japonaise, a emboîté le pas et demandé à son tour son éviction. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors toute cette affaire pose plusieurs questions. Comment se peut-il qu'un seul homme ait pu en arriver à représenter une telle menace pour ces trois géants de l'industrie mondiale? Et puis bien sûr, qui pour remplacer désormais Carlos Ghosn?
Alors avant de savoir qui sera le successeur de Carlos Ghosn, il est très important d'expliquer le modèle d'organisation très complexe que ce dernier a mis en place. Car il aura des conséquences et des répercussions sur le futur patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Ce schéma né en 1999, se base sur des synergies industrielles qui ont rapporté cette année 5,7 milliards d'euros et des participations croisées entre Renault et Nissan. Renault détient 43% de Nissan, qui possède lui-même 15% de la marque aux losanges, mais sans droit de vote. Dès 2016, Nissan a aussi racheté Mitsubishi et détient donc 34% de cette autre marque japonaise. C'est donc l'équilibre du pouvoir entre la France et le Japon qui est en jeu. La France détenant 15% du capital de Renault via l'agence des participations de l'État. Mais aujourd'hui, c'est plutôt la question de l'équilibre des pouvoirs au sein même de l'alliance qui reste posée. Carlos Ghosn, qui avait les pleins pouvoirs, avait aussi la légitimité pour faire accepter des décisions stratégiques aussi bien côté français que japonais. Ce qui n'empêche pas Bercy d'être inquiet. En effet, depuis un an et demi, l'État s'interroge même sur l'avenir de ce partenariat, avec la peur de se faire avaler complètement par le Nippon, une fois le dirigeant franco-brésilien parti, et cela avant même son interpellation hier. C'est très important de l'expliquer. En attendant, ce serait donc Philippe Lagayette, l'administrateur référent de Renault, qui pourrait assurer l'intérim. Quant à Thierry Bolloré, nommé en février dernier directeur général adjoint de Renault, dans l'éventuel départ de Carlos Ghosn à la retraite, il devrait occuper les fonctions opérationnelles. Réponse Thomas, ce soir, lors du conseil d'administration.
Merci Hakim Kasmi. Et s'agissant cette fois-ci des répercussions à la fois politiques et sociales de cette affaire en France, la mise en abîme de ces accusations de malversation financière présumée portée contre un patron de l'automobile en pleine crise des Gilets jaunes n'aura bien entendu échappé à personne. Et sans présumer de l'impact que ces révélations pourraient avoir, force est de constater qu'aujourd'hui encore, les Gilets jaunes poursuivent leurs opérations de blocage, principalement sur les autoroutes et les dépôts pétroliers. La grogne pourrait d'ailleurs se prolonger dans les prochains jours. D'ores et déjà, des appels à bloquer la capitale samedi prochain commencent à fleurir sur les réseaux sociaux. Après les Gilets jaunes, voici venu le temps des blouses blanches. Depuis ce matin et à l'appel de 16 organisations, les infirmières et les infirmiers sont appelés à cesser le travail et à manifester partout en France pour dénoncer le mépris du gouvernement accusé d'avoir, selon eux, cédé au lobby des médecins. Élodie Vergelati, bonjour.
Bonjour.
Alors, il est assez rare en réalité que cette profession discrète des personnels dévoués aux patients se retrouve dans la rue. La dernière grosse mobilisation avait eu lieu il y a 2 ans, mais cette fois-ci, les infirmiers et les infirmières qui s'estiment être les grands oubliés du fameux plan santé comptent bien se faire entendre.
Oui, les infirmiers et infirmières ont un mot d'ordre, faire enfin reconnaître leurs compétences. Leurs espoirs ont été douchés quand Emmanuel Macron a présenté en septembre le plan santé 2022, un plan qui, à leurs yeux, ignore la réalité du terrain. Les infirmiers et infirmières, notamment libérales, sont les seuls professionnels de santé à assurer des soins 365 jours par an. Daniel Guilherme est vice-président de la FNI, syndicat d'infirmières libérales.
Aujourd'hui, nous sommes sous les radars en fait, de la technostructure parce que le logiciel de la technostructure du ministère et de nos politiques, il est uniquement médico-centré. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que ce qui est bon pour le médecin est bon pour l'ensemble des acteurs du système de soins, ce qui est faux.
Signe que les médecins sont au centre de l'attention, le plan santé prévoit de leur adjoindre des assistants médicaux. C'est un nouveau métier au contour flou entre la secrétaire et l'aide-soignante. 4000 postes seront créés pour un coût de 200 millions d'euros par an, un cadeau financé par l'assurance maladie qui tranche avec les économies demandées aux hôpitaux. Sylvain Carnel représente l'UNEBOD, association des infirmiers et infirmières spécialisées de bloc opératoire.
L'hôpital est toujours en danger, il est toujours meurtri par un manque de moyens, un manque de personnel, un manque de temps. Les patients sont de plus en plus lourds à opérer, les interventions sont de plus en plus difficiles, de plus en plus techniques, on amène de plus en plus de technologies dans les blocs opératoires, et pourtant, à contrario, les infirmiers n'ont pas le temps d'aller se former, n'ont pas le temps de se spécialiser. C'est un gros problème à la force.
Les syndicats espèrent donc que la mobilisation sera forte cet après-midi devant le ministère de la Santé à Paris et devant les préfectures en région. Une crainte tout de même que le mouvement soit parasité par les gilets jaunes.
Merci Élodie Vergelati. Et décidément, y aurait-il quelque chose de pourri en royaume de Macronie pour fêter les 10 ans de la création de Pôle emploi? Une intersyndicale appelle les agents à se mettre en grève aujourd'hui. Une originalité pour le moins qui cache en réalité une autre singularité, elle aussi déroutante, la perspective pour les agents de Pôle emploi de se retrouver eux-mêmes au chômage compte tenu des réductions d'effectifs annoncées dans le service public de l'emploi. 4000 suppressions de postes d'ici la fin du quinquennat. Et que dire à présent de la colère des élus locaux après une quasi-rupture déjà fin septembre à Marseille lors du congrès des régions? Les motifs d'incompréhension avec l'exécutif ne devraient pas manquer non plus de s'exprimer à l'ouverture aujourd'hui du congrès annuel de l'Association des maires de France, porte de Versailles à Paris. Les élus attendent des réponses concrètes sur plusieurs sujets, au premier rang desquels les conditions dans lesquelles va être compensé pour les communes le montant de la taxe d'habitation supprimée. Plus généralement, les maires redoutent une réforme qui mettrait à mal l'autonomie fiscale de leur collectivité. Enfin, les élus demandent à ce que la méthode du dialogue soit revue, en particulier avec la mise en place de rencontres singulières entre l'exécutif et les associations. En attendant, et contrairement à sa promesse faite l'an dernier, Emmanuel Macron ne viendra pas cette année devant le Congrès. Le chef de l'État a préféré inviter directement les élus demain soir à l'Élysée. Et pour évoquer tous ces sujets, invité aujourd'hui de ce journal, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et de Relations avec les collectivités territoriales, en direct et en duplex depuis l'Assemblée nationale. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Une première question toutefois, madame la ministre. Est-ce qu'au travers de la mobilisation des Gilets jaunes qui se poursuit encore aujourd'hui, Emmanuel Macron ne paye pas notamment l'affaiblissement structurel des corps intermédiaires qu'il a lui-même contribué à ébranler en voulant, comme il le disait, renverser la table?
Je crois qu'il y a une évolution sociétale importante que Jacques Chirac avait bien décrite en parlant de la fracture sociale, et c'est une évolution sociétale qui vient de loin, bien évidemment, et qui ne touche pas que la France, mais que le monde occidental d'une manière générale. Et vous savez, moi, j'ai 68 ans aujourd'hui, d'ailleurs, et quand j'étais jeune, il y avait dans mon petit village, il y avait l'instituteur, le curé, la maison des jeunes, etc. Et tout ça, toute cette structure a évolué et fait que les jeunes se retrouvent plus éloignés de la réalité des territoires et avec moins de gens pour les écouter. Et je crois que c'est une les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, et je crois que c'est une évolution qu'il faut entendre, qu'il faut réparer. Et bien sûr, ça ne se fait pas comme cela en 18 mois, puisque le gouvernement est là depuis 18 mois. J'ai rencontré hier soir des Gilets jaunes, à Cône-sur-Loire exactement. Et ces gilets jaunes, j'ai discuté avec eux. Et vous entendez la diversité des situations et des opinions. Mais en même temps, il y a ce sentiment pour certains d'être un peu délaissés sur le bord de la route. Et il faut donc répondre à leurs angoisses. Ça n'est pas toujours facile, mais en tout cas, nous sommes là pour le faire.
Vous, Madame Gourault, vous faisiez référence à cette fracture sociale diagnostiquée en son temps par Jacques Chirac. Est-ce que ça se traduit aujourd'hui par ce que dit Bruno Le Maire, l'expression qu'il a employée, c'est déchirure territoriale?
C'est un autre mot, mais qui a un peu le même sens. Mais en tout cas, je crois qu'il y a des gens qui vivent difficilement, que ce soit d'ailleurs dans le monde rural ou dans les quartiers des villes. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut les banlieues, par exemple. Il faut certaines banlieues, bien évidemment. Il faut pouvoir répondre concrètement, territoire par territoire. Et c'est le sujet souvent qu'Emmanuel Macron, le président de la République, développe, c'est-à-dire une politique qui ne soit pas une politique qui vient d'en haut et qui descend sur les territoires, mais simplement répondre aux besoins des territoires, ça veut dire aux besoins des collectivités territoriales, mais surtout des citoyens qui y vivent.
Les relations avec les maires sont pour le moins difficiles. Emmanuel Macron avait dit l'an dernier, il avait annoncé qu'il irait chaque année devant le Congrès rendre compte de ce qu'il avait engagé. Finalement, il a fait savoir la semaine dernière qu'il n'irait pas. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne fait-il plus ce qu'il avait dit qu'il ferait ?
Emmanuel Macron va au fond rendre compte aux maires d'une autre manière, c'est-à-dire en les invitant à l'Élysée et en recevant quelques heures avant, demain aussi, le bureau de l'Association des maires. Il faut peut-être aussi comprendre que dans une situation où les associations des maires n'ont pas toujours été dans le dialogue, et je pense en particulier, puisque c'est le congrès des maires à l'AMF, pour dialoguer, il faut être deux. Il faut répondre aux invitations du Premier ministre quand le Premier ministre les invite. Il faut aussi venir voir les ministres qui sont en charge des collectivités territoriales ou les inviter à venir débattre au Congrès des maires sur des tables rondes qui parlent des collectivités locales.
Le président de l'Association des maires, François Baron, appelle ce matin le gouvernement à entrer dans une phase de négociation sur la taxe d'habitation.
Eh bien, je suis très contente. Je suis très contente que François Baron envisage une phase de négociation.
Pourquoi c'est lui qui bloque ?
Parce que depuis un certain nombre de semaines, voire de mois, nous n'arrivons pas, au fond, à travailler sur les sujets dont celui qu'il vient dénoncer, la réforme fiscale des collectivités territoriales, ou financières d'ailleurs, on peut dire les deux. Et je suis très contente et je dis à François Baron que je suis à sa disposition pour en parler quand il le veut avec les autres ministres qui m'entourent, Sébastien Lecornu et Julien de Normandie et bien sûr d'autres ministres encore à Bercy.
Alors plus précisément sur cette taxe d'habitation qui est pour l'instant compensée par l'État, par quoi est-ce qu'on va la remplacer ? Pour l'instant, c'est pas clair du tout.
Si, c'est clair. Je vais vous expliquer. Pendant 3 ans, c'est-à-dire la période au cours de laquelle, progressivement, la taxe d'habitation va diminuer pour le citoyen.
Elle est compensée.
Elle est compensée par un dégrèvement. Il y a une idée simple. L'État prend la place du contribuable. Donc, c'est le même, je veux dire, le produit attendu pour les communes et là, à l'euro près.
Elle l'a connue, c'est pendant 3 ans. On ne sait pas par quoi elle est remplacée.
Alors après, on met en place la réforme. Et surtout, dans cette volonté de dialogue que nous avons, on va négocier avec les associations d'élus, toutes les associations d'élus, on va préparer, travailler sur la réforme fiscale. Et pour savoir quel est le produit attendu des uns et des autres et quelle est la ressource des uns et des autres. Il n'y aura pas de nouvel impôt.
Le transfert d'une part de la taxe foncière des départements aux communes. Est-ce que c'est pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, ça ?
On peut le présenter comme ça, mais c'est un impôt qui, pour le citoyen, est prélevé par 2 collectivités territoriales différentes. On peut imaginer que pour la clarté du débat et la lisibilité des citoyens, ça soit une collectivité locale qui lève l'impôt sur le foncier bâti, puisque c'est ça dont il s'agit. On peut imaginer ça, c'est-à-dire une descente de la part départementale vers les communes. À ce moment-là, il faut compenser les départements par une nouvelle ressource, et pourquoi pas...
Un nouvel impôt ?
Un nouvel impôt, mais comme on l'a fait pour les régions, enfin comme je dis « on », c'est même le précédent gouvernement qui l'avait commencé. C'est-à-dire, on a donné, par exemple, on a remplacé pour les régions la fameuse dotation globale de fonctionnement. On l'a remplacée par une part d'un impôt national, à savoir la TVA. Et je crois savoir que les régions, si vous les interrogez, sont plutôt satisfaites d'avoir une ressource qui est dynamique.
Donc tout ça fera l'objet des négociations à venir. Encore une question, une toute petite question sur cette désaffection. On parle beaucoup des affections de la population, des citoyens pour la politique, mais aussi des élus, des maires qui ne veulent plus, qui annoncent à 50% d'entre eux ne plus vouloir se représenter aux prochaines municipales. Cette désaffection pour la politique, comment est-ce que vous l'expliquez et comment est-ce qu'on y fait face ?
C'est aussi une désaffection qui n'est pas nouvelle. Quand vous savez que la dernière fois...
Oui, mais ça se renforce.
Il y a eu 40% des maires qui ont changé. On ne part pas de zéro. Parce que, voilà. Il y a une excellente étude qui a été faite par le CIVIPOF, ou encore ce matin dans Le Parisien, qui montre combien c'est parfois difficile d'être maire, parce que vous êtes, au front, le plus près du citoyen, que parfois le citoyen... lui aussi, c'est une évolution sociétale, je reviens toujours là-dessus. Mais le citoyen a parfois de plus en plus tendance à se comporter comme un consommateur et à considérer que le maire est là pour répondre oui à tout. Et on ne peut pas dire oui à tout. Et le maire est confronté aussi à ce sujet. Et donc, il faut accompagner les maires dans l'exercice de leur mandat. Et c'est aussi une proposition du président de la République de mieux les accompagner pour qu'il y ait un renouvellement de génération aussi les vocations, si je puis dire, de maires dans les moins de 36 000 communes maintenant, puisqu'il y a les communes nouvelles. Mais c'est quelque chose de très important que de les accompagner.
Merci beaucoup Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires, d'avoir été invitée du journal de Midi 30 sur France Culture. Et bon anniversaire à vous, puisque c'est votre anniversaire.
Merci beaucoup.
Et merci à Stéphane Robert ainsi qu'à Stéphane Bonfils pour les moyens techniques. Alors que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont attendus dimanche pour un sommet extraordinaire censé avaliser le projet d'accord sur le Brexit conclu la semaine dernière entre les négociateurs de Londres et Bruxelles, voilà que deux rebondissements viennent successivement contrarier ce matin le processus de sortie du Royaume-Uni de l'UE. D'une part, les parlementaires nord-irlandais du DUP ont annoncé aujourd'hui qu'ils voteraient contre l'accord sur le Brexit conclu par Theresa May. Un sacré revers pour la première ministre britannique, étant entendu que ce sont ces mêmes députés unionistes nord-irlandais qui permettent aujourd'hui aux conservateurs de disposer d'une courte majorité au Parlement. Quant au président socialiste du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, il a lui annoncé ce matin qu'il voterait contre le projet d'accord si la partie du texte concernant Gibraltar, territoire britannique depuis 1713, n'est pas amendée. Les explications à Madrid de Marie-Hélène Ballestero.
C'est bien un ultimatum lancé par l'Espagne. Tout a démarré hier. Le chef de la diplomatie espagnole, Josep Borrell, a haussé le ton à Bruxelles. Il a exprimé son désaccord à Michel Barnier au sujet d'un article, le 184, qui porte sur Gibraltar dans le texte sur le Brexit. Dans cet article, on peut lire que l'Union européenne et le Royaume-Uni négocieront la relation future. Or, pour l'exécutif espagnol, ces cinq lignes sont intolérables, car le statut de Gibraltar est un sujet à traiter entre Madrid et Londres, puisque Gibraltar n'appartient pas au Royaume-Uni, c'est un territoire colonial. Pour l'Espagne, la solution passe désormais par la modification de l'article 184, même si cela semble difficile de réécrire le contenu. On pourrait bien parvenir à un compromis en rajoutant un protocole annexe ou une clarification. En somme, l'Espagne exige une solution avant le sommet spécial de Bruxelles du 25 novembre. Le chef du gouvernement socialiste Pedro Sánchez l'a souligné ce matin lors d'une conférence de presse à Madrid. À ce jour, s'il n'y a pas de changement, a-t-il dit sur Gibraltar, l'Espagne votera contre l'accord sur le Brexit.
On l'avait quitté à Marseille où, bien qu'ayant obtenu vendredi dernier une immatriculation provisoire du Liberia, l'Aquarius, amarré depuis un mois dans le port de la cité phocéenne, n'est toujours pas autorisé à reprendre la mer et le navire n'est décidément pas prêt de reprendre sa mission pourtant vitale en Méditerranée, secourir les migrants, puisque ce matin, on a appris que la justice italienne avait demandé le placement sous séquestre du navire humanitaire en cause. Une affaire de traitement illégal de déchets dangereux. Alors quand le ministre Salvini exulte, Médecins sans frontières dénonce une mesure grotesque pour criminaliser l'action des secours en mer, le tout dans un contexte dramatique. Le nombre de morts dépasse les 1200 depuis le début de l'année en Méditerranée. C'est une correspondance à Rome signée Mathilde Imberti.
L'enquête cette fois-ci part du parquet de Catane en Sicile, longtemps port d'attache de l'Aquarius, et concerne une quarantaine de débarquements effectués depuis janvier 2017. Les enquêteurs reprochent au navire de ne pas avoir suivi les procédures en omettant de déclarer comme toxiques les déchets produits à bord, des déchets sanitaires issus des opérations médicales, les restes alimentaires ou encore les vêtements de migrants potentiellement infectés. 24 tonnes de déchets toxiques ont été traités comme des déchets classiques selon les éléments de l'enquête diffusés dans la presse italienne. La justice demande le placement sous séquestre du navire humanitaire et la saisine d'environ 500 000 euros perçus par l'entreprise chargée du traitement des déchets. 24 personnes sont visées par l'enquête, dont des membres d'équipage de l'Aquarius. Médecins sans frontières n'a pas tardé à réagir, rejette les accusations d'activités criminelles et dénonce une mesure grotesque destinée à criminaliser l'action des secours en mer. Les ONG, découragées par les obstacles judiciaires ou les attaques politiques, ont déplacé leurs activités quand leurs navires ne sont pas tout simplement bloqués dans les ports comme l'Aquarius à Marseille, toujours en quête de pavillons. Nouveau coup dur pour les ONG de secours en mer, la demande de mise sous séquestre de l'Aquarius et d'un autre côté l'occasion pour le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini de se féliciter de son action. Il semble, écrit-il sur Twitter, que j'ai non seulement arrêté le trafic des migrants mais aussi le trafic des déchets. Médecins sans frontières annonce vouloir faire appel de la décision de la justice italienne.
On termine avec un mot rapide du temps pour aujourd'hui. Pluie et grisaille sur l'ensemble du pays. Les températures, elles seront généralement comprises entre 1 et 11 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.